enfants et des enfants en attente. La crèche 1, 2, 3 soleils, une dizaine d'enfants et des enfants en attente. La crèche Les Câlins, 32 enfants, 33 enfants, 35 enfants et des enfants en attente aussi. Une vingtaine d'enfants en attente. Donc aujourd'hui, et nous avons 7 assistantes maternelles sur le village. Donc on se rend compte que malgré 3 crèches, malgré 7 assistantes, on est encore en déficit de place. Hein. C'est un gros problème. Donc, nous réfléchissons pour trouver des locaux. Donc, peut-être que le jour où nous aménagerons les terrains de foot qui seront déplacés, nous ferons des crèches, nous aurons des locaux là-bas et nous pourrons y créer des crèches.
Oui, on a été contacté également par des assistantes maternelles qui étaient prêtes à s'engager, qui avaient trouvé des locaux, enfin une maison à acheter, mais tous les gens tout autour n'ont pas été favorables au projet. Donc il faut savoir que c'est difficile de s'installer sur mon terrain.
La personne avait un très beau projet, elle avait trouvé la maison, elle pouvait garder 10 enfants. Elle était dans un petit lotissement et elle a fait quelque chose finalement qu'elle aurait pas dû faire, mais elle a été tout à fait transparente et elle a contacté tous les colotis. Donc ils étaient 5 ou 6 dans ce petit lotissement et elle les a tous contactés en leur expliquant le projet qu'elle voulait mener elle avait trouvé une maison sur un très grand terrain. Donc il y avait vraiment de l'espace, c'était pas quelque chose de tout petit. Et tous les colotis se sont opposés, sauf un.
Ils avaient leur mot à dire ?
Ils avaient leur mot à dire. Non, ils n'avaient pas leur mot à dire, mais elles voulaient que ça se passe dans une bonne intelligence. D'accord. Et qu'une fois qu'elle serait installée dans ce lotissement, elle ait de bonnes relations avec tout le monde. Donc elle a expliqué que le soir, il n'y avait plus de bruit, que le week-end, il n'y avait pas d'enfants, mais les allées et venues dans le lotissement, on n'est plus, les gens n'ont pas voulu, dans ce lotissement, avoir la possibilité d'avoir une crèche. Donc elle a été très très déçue, parce que son projet était intéressant, nous on la soutenait, mais ça n'a pas été possible. Donc elle cherche toujours sur Montferrier une villa, mais après, évidemment, elle ne peut pas se permettre d'acheter n'importe quelle villa à n'importe quel prix. Hein. Elle est toujours tenue par ça. Mais voilà. Donc vous voyez que finalement, la petite enfance n'intéresse pas tout le monde. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on est en manque de moyens de garde pour les enfants. Et voilà. Là, on avait 10 enfants qui auraient pu être pris en charge. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible à cet endroit-là. On va croiser les doigts pour qu'elle trouve quelque chose ailleurs. Et d'ailleurs, à l'urbanisme, ils sont très très vigilants pour s'il y a des choses qui passent et qui puissent être intéressantes pour de futurs projets, qu'on fasse signe tout de suite à cette personne-là. Et même pour nous, s'il y a des choses intéressantes, pourquoi pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un petit peu limité au niveau moyen de garde d'enfants. C'est compliqué. Donc, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre le fait de donner 25 000 euros au CCAS pour lui permettre de commencer à aider la crèche Les Câlins ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour la crèche Les Câlins, donc adopté à l'unanimité. On va réfléchir et puis on tiendra au courant. Donc la délibération suivante concerne donc le gros sujet de ce conseil municipal, parce que finalement c'était le plus gros sujet, hein, c'était la tarification du restaurant scolaire, avec comme première délibération les nouvelles tranches pour justement déterminer ce tarif du restaurant scolaire. Et donc M. Chrétien va vous expliquer ça de long en large.
Merci. Je vais parler très personnellement, mais je suis satisfait vraiment de la proposition qui est faite ce soir, qui a été réfléchie au sein d'un groupe de travail qui a allié à la fois la majorité et les oppositions. qui, je pense, satisfait les trois groupes. Comme nous étions engagés, hein, puisque c'était une demande que vous aviez quand nous sommes installés, de revoir aussi bien les tranches et les tarifs au niveau du restaurant scolaire. Donc nous avons travaillé ensemble et c'est vraiment une satisfaction pour moi qu'on arrive à un consensus et que tout le monde ait joué le jeu dans le cadre du groupe de travail qui a été créé et qui rassemblait aussi bien les élus de la commission finances. Exactement, et de la commission affaires scolaires. Donc, merci à tous pour votre implication, vos propositions, vos échanges. Comme vous le saviez, jusqu'à présent, nous étions sur une base de trois tranches qui n'étaient guère satisfaisantes, puisque, bah, bien évidemment, moins il y a de tranches, plus ça favorise les inégalités. Là, ce que nous vous proposons, c'est d'avoir sept tranches différentes, plus étalées du coup, et qui permettent de tenir compte vraiment des différents revenus des Montferriérains lors de la fréquentation du restaurant scolaire par leurs enfants. Je ne vais pas reprendre point par point les sept tranches, hein, vous les avez dans la note de synthèse. On vous propose qu'elles soient applicables à compter du 1er janvier 2023. Et enfin, qu'en cas de non-présentation des justificatifs qui permettent le calcul du quotient familial, la tranche 7 soit automatiquement retenue, c'est-à-dire la tranche la plus haute, et c'est ce qui se fait déjà actuellement auprès des services PSOE. Est-ce que quelqu'un a des questions ?
Jean-Marie.
Oui, je voulais juste m'associer effectivement au travail qui a été fait parce que c'est un travail qui a été long, on a eu plusieurs réunions successives. Je pense qu'on est arrivé à, c'est comme toute négociation, hein, chacun a fait un pas vers l'autre de façon à arriver à quelque chose qui était opérationnel. Et si on pouvait le faire sur d'autres dossiers, ça nous intéresserait beaucoup, mais nous sommes très satisfaits de la façon dont a été instruit ce dossier. Voilà.
Merci.
Comme Jean-Marie, au nom de Céline, bien sûr, qui a participé à ces différentes réunions, on s'associe à ce travail et on trouve que c'est très bien que ça ait porté ses fruits et qu'on soit arrivé à un consensus vis-à-vis de cette question. Voilà, merci pour ton travail, Céline.
Merci à tous, surtout, et à tous les élus qui ont participé à ce groupe de travail.
Pouvoir continuer le mandat avec un équilibre maintenant au niveau de la cantine scolaire. Et bon, c'est vrai que ça vous a peut-être paru long, mais il a fallu, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de choses à faire. Et on a pris les dossiers les uns après les autres, mais on s'était engagé à revoir les tranches pour la cantine. Et je pense que voilà, aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette réflexion. Après, c'est vrai qu'on a eu 2 ans de Covid où ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, on a dit qu'on travaillerait dessus, qu'on ferait quelque chose de plus logique. Donc voilà, on a fait ce travail. Je remercie en tous les cas les deux commissions qui ont bien travaillé ensemble. Et puis, comme le disait très justement Jean-Marie, tout le monde a fait un petit effort de son côté. Et nous sommes arrivés, je pense, à quelque chose d'assez juste dans son ensemble. Donc voilà, merci à tous pour le travail accompli. Et nous allons passer donc au vote, qui est contre, qui s'abstient, et évidemment, tout le monde vote à l'unanimité ce changement de tranche. Nous allons faire la deuxième délibération concernant le tarif de la restauration scolaire. Ce sont donc les nouveaux tarifs en eux-mêmes, et donc je te relève la parole.
Merci. Alors effectivement, après avoir adopté les nouvelles tranches, il convient de mettre en face de ces tranches de nouveaux tarifs. Ça a été aussi un travail qui a été mené par les deux commissions, hein, finances et affaires scolaires. Encore une fois, tout le monde, en faisant un petit pas l'un vers l'autre, a pu participer à cette élaboration. Donc ben, nous avions effectivement auparavant un tarif le plus bas qui était à 2,45 et un tarif le plus élevé à 4,65, ce sont les bons tarifs, ceci, puisqu'il y a eu quelques soucis dans l'envoi de la note de synthèse, et je m'en excuse, et dans les tableaux que j'avais partagés également. Du coup, aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec un tarif au plus bas à 1,50€ et un tarif le plus élevé à 5,95€. Je vais reprendre un peu ce qui est dans la note de synthèse, mais je pense que c'est important quand même de le préciser. C'est qu'avec cette nouvelle répartition, sur la base de 20 repas par mois, la nouvelle tarification, elle implique une économie de 19€ par mois pour les familles qui vont se situer dans la première tranche, ni baisse ni augmentation pour les familles situées dans les tranches 3 et 4, et une augmentation de 26€ par mois pour les familles situées dans la tranche 7, mais ce sont des familles qui sont vraiment considérées avec de hauts revenus. Donc je pense que 26€, c'est quelque chose qu'elles peuvent absorber. Voilà, je vous demande aussi, c'est vrai qu'on avait voté la dernière fois, lors du précédent conseil municipal, un tarif pour les enseignants. Vous avez fait remonter votre inquiétude sur le fait que ce tarif, qu'on puisse avoir des remarques de la part de nos administrés sur le fait qu'il y ait un tarif préférentiel pour les enseignants. De fait, nous avons décidé d'aligner les tarifs que nous vous proposons, les 7 tarifs, pour les enseignants, enfin pour toute personne qui déciderait de manger au restaurant scolaire. Comme ça, ça nous a paru être une mesure juste. Et enfin, on vous demande de maintenir aussi la pénalité d'1,50€ pour réservation tardive et la facturation du prix du repas au prix de la tranche de coefficient familial dans laquelle se situe l'usager en cas d'annulation tardive de la réservation. Est-ce que vous avez des questions ?
Les enseignants seront basés en fonction de leur QF.
Et exactement, c'est ça. Ils vont créer un compte sur étiquette et ils mettront leur avis d'imposition qui permettra de calculer leur QF et de...
Alors, tu as une question que... remontée. Nous avons des remontées de parents, c'est Céline, et puis, des remontées de parents d'élèves qui regrettent que la mairie ait souhaité passer une application peu souple, d'ailleurs qu'elle en ait le coût, et qui nécessite tout de même une vérification tous les matins. De nombreux parents, de plus, ont été mécontents de la manière dont a été gérée l'absence de personnel à la cantine la dernière semaine de novembre, avec un mail envoyé à 22h dimanche soir. Donc voilà, beaucoup regrettent, c'est ce qui est remonté et que je vous dis, la souplesse d'avoir l'utilisation de cette application.
Merci. Alors sur la gestion, je ne vais pas vous apprendre que malheureusement, en période de Covid, gérer au dernier moment des absences de personnel, ce n'est pas toujours évident. Si on avait pu éviter de fermer la cantine, on se serait bien évidemment abstenu de le faire, surtout à 22h30 un dimanche soir. Je ne vous cache pas que j'envisageais déjà de la fermer le vendredi soir, que sur les conseils de certains agents, j'ai dit « Allez, on attend, on va voir et on va tenir. » Et au final, j'aurais dû la fermer le vendredi soir. En toute sincérité, pour que les gens puissent s'organiser. Bon, voilà, c'est...
Le problème, il est là.
On aurait pu ne pas prévenir.
Et on aurait pu, voilà. C'est la difficulté, si vous voulez, c'est que dans ce genre de situation, il n'y a jamais de décision évidente. Et voilà, si j'avais prévenu le vendredi soir, on aurait subi des critiques également. Là, à 22h30, oui, malheureusement, j'apprends que 2 personnes supplémentaires sont absentes et en termes de sécurité et de responsabilité, puisque derrière, il y a des questions de responsabilité, je ne peux pas ouvrir le restaurant scolaire. Donc on a fait notre possible, normalement, c'est la semaine, on a fait tout notre possible et ça a rouvert dès le jeudi.
Oui, on l'a fermé 2 jours.
On l'a fermé finalement 2 jours, alors que normalement, on partait sur une semaine de fermeture, donc on l'a réouvert le jeudi et le vendredi. Donc je comprends le mécontentement des administrés. J'ai pu échanger avec eux. Hein. Le lundi, à 7h30, j'étais devant les écoles pour m'assurer que les parents avaient bien l'information.
Dans l'ensemble, les parents ont...
Dans l'ensemble, majoritairement, effectivement, les parents ont compris. Voilà, ils se doutent bien que ce sont des situations exceptionnelles qui font que quand vous avez plus de la moitié de vos agents qui sont arrêtés, un dimanche soir à 22h30, vous ne pouvez pas remplacer ces agents-là.
Et ça risque de se reproduire puisque, comme vous le savez, la Covid repart.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on essaye d'attendre le maximum pour se dire, ben, on va quand même ouvrir. Et puis, quand, comme le dit M. Chrétien, le dimanche, on vous appelle et qu'il y a deux cas supplémentaires, ben là, on ne peut plus, on n'a pas là assez de personnel, on n'a plus assez de personnel, on ferme. Voilà. Après, c'est vrai qu'en discutant aussi, on avait pensé que fermer le vendredi, c'était peut-être trop tôt, parce qu'on avait à minima, mais on l'avait le personnel l'avait, pour ouvrir le lundi. Et c'est deux personnes le dimanche soir.
Mais peut-être dire, voilà, on ferme le vendredi soir, on fermera. Et si on ne ferme pas, on vous prévient.
Oui, mais alors ça, c'est source d'erreur.
Mais alors, monsieur Bord, on l'a fait parce que le vendredi soir, j'ai envoyé un mail personnellement demandant aux parents qui pouvaient de délester la cantine pour le lundi. Et malheureusement, le délestage n'a pas été suffisant. Je ne critique absolument pas ça parce que je comprends tout à fait que deux parents qui travaillent et qui n'ont pas d'autre solution pour le midi pour leur enfant ne désinscrivent pas leur enfant. Donc ceux qui ont pu le faire l'ont fait, malheureusement pas suffisamment pour pouvoir permettre de maintenir le restaurant ouvert.
Et l'application ?
Et sur l'application, sur le côté peu souple, je pense que si on regarde un peu à droite, à gauche, ce qui se fait dans d'autres communes, prenez Montpellier par exemple, il faut réserver sur toute la période concernée. D'autres communes même de taille similaire à la nôtre, c'est pareil. Regretter effectivement, enfin moi ce que je vois, c'est surtout qu'on a considérablement réduit le gaspillage alimentaire avec la mise en place de ce nouveau système, puisqu'il y a beaucoup moins de repas qui sont jetés, puisque non consommés. Donc je trouve que d'un point de vue, de ce point de vue-là, c'est quand même satisfaisant.
Juste, ça permet aussi d'informer via le conseil municipal.
Bien sûr.
Il y a eu des questions qui ont été posées sur le fait d'avoir l'annulation, finalement, enfin, les repas ont bien été payés. Donc nous, la municipalité, on a payé les repas.
Les repas ont été payés et ont été distribués à des SDF de Montpellier. Oui.
Par exemple, là, dans le ça fait un sacré coup, finalement, parce que c'est la commune. Les gens ne s'en rendent pas compte. Finalement,
je crois que c'est à peu près 1 000 euros par jour de repas.
Si on avait fermé toute la semaine, ça fait que d'un coup, comme ça, on prenait 4 000 euros.
Ah, bien sûr. Alors, on aurait fait la même chose le jeudi et le vendredi. On aurait donné les repas. Mais bien sûr, c'est un coup.
Enfin, je trouve que c'est pas rien non plus. C'est à savoir que finalement, la mairie, elle cherche pas à fermer la cantine pour un oui ou pour un non, parce que derrière, ça fait un coup. Hein.
Ah, mais Myriam, je vais être totalement transparent avec toi. Je vais te faire la réponse que j'ai fait à un administré lundi matin à 7h30. Je ne me suis pas amusé le soir à 22h30 après avoir fini de regarder Capital à me dire qu'est-ce que je vais faire. Tiens, je vais emmerder, excusez-moi le terme, les Montferriens hein, en fermant la cantine. Voilà. Donc après, le coût, effectivement, il est là. Sur le lundi et le mardi, mais comme on l'avait fait l'année dernière quand la cantine avait fermé, c'est le Secours catholique, hein, je crois, qui a été mandaté, qui est venu récupérer les repas, qui les a redistribués. Voilà, enfin, moi, le but, c'était aussi que ces repas ne soient pas jetés et complètement perdus. À défaut de pouvoir être utilisés par les petits Montferriens, qu'on puisse au moins en faire bénéficier des personnes qui en avaient besoin.
Oui, parce qu'en tout cas, il y a des personnes qui avaient mal compris de dire, alors finalement, on peut au dernier moment annuler les réservations, alors que non.
Non, c'est pas ça, non.
On l'a quand même facturé.
Ah oui, bien sûr, oui, complètement.
C'est important que les informations soient bonnes, parce que je trouve que ça fait...
Ah non, on est quand même livré malgré tout, donc c'est...
On est livré et on paie.
Oui.
Et on a donné cette fois-ci au Secours catholique, les autres fois à la Banque alimentaire, pour pas que les repas soient perdus. Mais...
Et si je vais même plus loin, on paye la moitié du personnel qui est présent et qui ne fait rien pour le coup. Alors si, elles se sont occupées, elles ont décoré la cantine, elles ont fait d'autres choses, voilà, mais...
Donc tu as raison en disant que c'est important que les gens sachent que c'est un coût pour la commune et qu'on essaye de faire au maximum pour garder la cantine ouverte. Parce qu'une fois que les repas sont commandés, ils arrivent et donc c'est un coût pour nous.
Et je voudrais aussi préciser deux choses parce que tu as raison et c'est bien de le dire en conseil municipal parce que moi ça peut être entendu par tout le monde. Les parents qui se portent volontaires, la commune n'est pas assurée pour que ces parents-là puissent assurer le repas des enfants. Deuxième point auquel je réfléchissais, qui était sur...
Et ça serait jamais possible, parce qu'il y a aussi une proposition à un moment sur un groupe WhatsApp qui a été faite, d'avoir une réflexion pour la suite. Est-ce que ça, on va la donner? Est-ce qu'il y a des possibilités?
Ah oui, et c'est ça que je voulais dire, oui.
Par la suite, est-ce que si on anticipait, y aurait des assurances possibles si les gens étaient... parce qu'à un moment, on l'avait envisagé de demander à des...
On peut pas anticiper la Covid. Ça, on peut pas l'anticiper.
Non, pas anticiper, mais anticiper des personnes qui pourraient être
qui pourraient être
assurées.
On pourrait y réfléchir éventuellement. Après, quand je vois le tollé que ça a été sur des parents qui se sont plaints que qu'on allait mettre des grands-parents qui n'avaient pas le BAFA, qui n'avaient pas je ne sais quel diplôme pour encadrer les enfants,
À un moment donné, on a abandonné. Nous, on a vu ce qui se faisait dans les autres communes. Dans les autres communes, ce pool de parents ou grands-parents
existe. Hein.
On s'est dit, pourquoi pas à Montferrier ?
J'ai l'impression qu'au cas où, si peut-être là, ce nouvel épisode nous donnerait une nouvelle légitimité, une nouvelle envie en lien avec la ville, peut-être de le faire. La dernière fois, c'était peut-être...
Non, mais je pense que ça n'a rien à voir en lien avec l'API ou pas. Je pense qu'il y a des parents qui sont très procéduriers, qui sont très...
qui ont des idées peut-être très arrêtées sur certaines choses, et voilà.
Écouter que ces parents-là...
Je suis complètement d'accord avec toi, mais il ne faut pas forcément écouter que ces parents-là. Il faut écouter tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire, parce que si je n'écoute que ces parents-là,
on ferait rien.
Je suppose que de toute façon, ça représente peu de parents.
Donc, on met
en place cette chose-là. Ils mettent pas leurs enfants.
Oui, c'est ça.
Bien sûr. Ah, mais après, j'ai aucun souci. Parce que l'autre point dont je ne me rappelais pas, c'est que trouver des personnes au dernier moment pour 2 heures de temps dans la journée, et ça, les parents le comprenaient difficilement, et j'ai essayé de faire preuve de pédagogie, mais trouver quelqu'un qui vient de 11h30 à 13h30 à Montferrier pour faire la cantine, enfin.
C'est pour ça qu'on avait pensé aux grands-parents qui étaient sur le place, village, aux parents qui ne travaillaient pas, aux mamans qui ne travaillaient pas, aux papas qui ne travaillaient pas, et qui pouvaient donner une aide ponctuelle au moment où on était étranglé parce qu'on ne pouvait plus rien faire.
Moi, j'ai l'impression que le terrain est de nouveau favorable pour cette réflexion, et je trouve que ça serait bien de la mener.
On peut l'initier, on peut complètement l'initier, y travailler, voir.
Ça serait mal ressenti s'il n'y avait rien derrière. Et la critique, elle est hyper facile. Moi, j'aime pas les critiques faciles. Mais là, au moins, je me dis, s'il y a des parents volontaires, quels qu'ils soient, de l'API ou d'ailleurs, qui ont envie de mener cette réflexion, on peut peut-être essayer de voir s'il y a des...
Après, là, dans le laps de temps, moi, l'API s'est rapproché de moi. Et je leur ai dit que je mettais à disposition le restaurant scolaire pour qu'ils mènent leur propre initiative, avec une décharge de responsabilité signée par le président de l'API sur la mise à disposition du restaurant scolaire. Donc voilà, j'ai essayé d'être facilitateur. Au final, on a pu rouvrir. Donc voilà, mais après, je sais qu'on m'a reproché aussi de dire « Ah ben, il suffit qu'on commence à gueuler pour qu'ils rouvrent la cantine. Ouais. » Ben non, c'est pas ça. On rouvre parce qu'on peut rouvrir. Et le but, c'est dès qu'on peut rouvrir, on rouvre. Enfin, moi, ça m'amuse pas personnellement de fermer la cantine, je le redis encore une fois.
Je pense que ce qui a été dit là, c'est qu'un plan B doit être prévu, c'est-à-dire qu'en cas de personnel qui veut déficient, est-ce qu'on ne peut pas, après c'est à discuter quoi.
Ah mais bien sûr.
On ne peut pas prévoir ce personnel qu'on appelle plan B, qui serait, je ne sais pas qui, qui serait assuré. Quelles sont les conditions pour que ça soit mis en place ?
Là, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé déjà l'année dernière, c'est que malheureusement, notre plan A, Covid, et notre plan B, Covid aussi. Donc là, c'est le plan C, même, qu'il fallait trouver. Donc, parce que normalement, on arrive avec notre pool de personnel à faire tourner les choses et à compenser les absences des uns et des autres. Donc, on n'a pas de difficultés. Là, malheureusement, c'est qu'ils sont tous tombés en même temps. Donc après, c'est épisodique, hein, ça n'arrive que...
Mais tu vois, le Covid repart, ça risque...
Bien sûr.
Si on n'a pas recruté de plan B, je pense que là, la critique, elle sera...
On va, alors, moi, j'ai vraiment aucun souci pour y travailler. On va y travailler, hein, y a pas de problème. Par contre, je vous préviens, attendez-vous à avoir quand même en face certains parents avec beaucoup de réserves. Voilà.
Et qui gardent
Mais je n'ai pas de difficulté à ce qu'on réfléchisse à un plan C, D, E, F. Merci.
Après cette discussion très intéressante, on va passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci pour la tarification et merci pour tout le travail accompli. Alors, la dernière délibération concerne la motion sur l'aménagement futur du rond-point de Girac. On ne va pas en reparler, on en a beaucoup parlé, on l'a écrite à trois mains, à trois groupes, donc à trois mains. Je pense que tout le monde est d'accord que tout le monde est d'accord sur le sujet de la motion sur le futur aménagement de Girac. Donc ce soir, nous allons la voter tous ensemble, je l'espère. Donc, on va passer directement au vote, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de questions particulières là-dessus. Donc, qui est contre cette motion ?
Je vais oui. Juste une question. Oui. Je sais en fait, qu'une motion va certainement être votée aussi en conseil municipal à Prades. La seule municipalité qui n'a pas voté, puisque le conseil municipal s'est déjà déroulé, c'est la Agathe. Personnellement, et notre groupe, on fait ensemble, nous pensons qu'une motion commune entre les trois municipalités, les trois communes, serait quand même très importante face à la métropole. Est-ce que les groupes mobilité, les maires en question, ne pourraient pas essayer d'initier, disons, cela?
Je pense, M. Bord, qu'à partir du moment où chaque municipalité vote sa motion, il faut respecter aussi la souveraineté de chaque municipalité. Nous avons décidé d'un commun accord avec les trois groupes de faire cette motion. À Prades, ça sera peut-être que le groupe majoritaire qui votera la motion, peut-être pas l'ensemble du conseil. À Clapiers, ils ont choisi autre chose, un autre mode d'expression. Je pense qu'il faut respecter la souveraineté de chaque commune. Donc aujourd'hui, nous votons notre motion qui aura son poids ou n'aura pas son poids auprès de la métropole. Prades va le faire au prochain conseil municipal. Ça servira ou ça ne servira pas. Voilà. Donc je pense que faire une motion, tous les trois communes ensemble, enfin, je pense que les maires vont s'opposer. En plus, bon, mais il faut le dire quand même, sur les trois communes, on a deux vice-présidents. Donc ces vice-présidents sont un petit peu en porte-à-faux entre la commune, la métropole, c'est pas évident. Donc c'est un choix qu'ils font. Donc si le maire de Clapiers a décidé de ne pas voter de motion, c'est son choix. La maire de Prades fait au prochain conseil le vote de cette motion, peut-être que de son côté. Et nous ici, nous avons obtenu un consensus entre nos trois groupes, et tant mieux. Et voilà, elle sera force, cette motion, et on essaiera de la porter haut et fort au niveau de la métropole. Voilà.
Dernier point. À Prades, la motion a été initiée par un groupe d'opposition, qui a été acceptée par la majorité. À Clapiers, il n'y a pas eu de motion, mais ils ont reçu le président de la Fosse lui-même, qui est venu expliquer, disons, le projet de la ligne 5 du tram.
Au conseil municipal ou à une réunion, À une réunion. Voulez-vous qu'on fasse venir M. de la Fosse, M. Bord? Je pense qu'il, ce qu'il a dit à Clapiers, il répétera. C'est pas parce que M. de la Fosse viendra que les choses changeront. Je vous rassure. Vous avez eu les techniciens, on a eu en groupe Mme Fraîche qui est venue expliquer. Moi, si vous demandez, si tout le monde demande la venue de M. de la Fosse, il n'y a aucun problème. Je demande à M. de la Fosse de venir expliquer le projet de la ligne 5. Mais il vous expliquera le projet de la ligne 5. Comme il l'a fait à Girac, à Clapiers. Il n'a pas expliqué la problématique de Girac.
Tout à fait, mais les élus de Clapiers lui ont rappelé la problématique de Girac.
Et la réponse a été ?
Qu'on envisagerait certainement un rond-point comme il existait auparavant.
C'est ce qu'il a répondu ? Monsieur de la Fosse a répondu ça ? Pour m'assurer. Alors, qu'a répondu M. de la Fosse M. de la Fosse à la question sur Girac?
Rien. Rien n'est figé.
Rien n'est figé. Ce qu'il a écrit dans la Gazette, d'ailleurs. Hein. Il était ouvert à la concertation.
Jusqu'à présent, à Montpellier comme ailleurs, ce ne sont pas les techniciens qui décident.
Vous savez, moi, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci, hein, mais ça n'apportera rien.
Il faut une rien. Concertation, c'est ça qui
m'a dit.
Exactement. Il n'y a pas eu de concertation.
Il n'y a pas eu, mais ça, bon, on ne va pas revenir sur les choses qui n'ont pas été faites depuis ce mois. Voilà, aujourd'hui, c'est fait. Il faut se tourner vers l'avenir et essayer de faire avancer les choses plutôt que de dire il n'y a pas eu de concertation. Ben oui, il n'y a pas eu de concertation, on le sait, on en est tous conscients. Bon, aujourd'hui, il faut aller de l'avant et faire avancer les choses, soit dans le bon sens, et je l'espère, soit ben, la métropole campe sur ses positions et Girac restera Girac. Enfin, le projet Girac restera le projet Girac. Mais on fait tout pour faire avancer les choses. En tous les cas, nous, communes de Montferrier, je ne sais pas ce qu'ils font à Prades et à Clapiers, parce que je pense que chaque commune a sa façon d'appréhender le projet. Nous, ici, à Montferrier, on y va, on bouscule, on fait des propositions. Je pense qu'on aura fait beaucoup de choses pour Girac, en tous les cas en tant que commune de Montferrier. Voilà. Et je regrette vraiment l'organisation de la réunion informative qui s'est faite à Montferrier le 4 octobre. 5 novembre. Le 5 novembre, nous étions les premiers. La réunion n'a absolument pas été préparée par la métropole. Ils sont arrivés 3 minutes avant le début de la réunion. Il a fallu qu'ils nous ont mis les quatre panneaux explicatifs qui ne voulaient rien dire tous ensemble. Il a fallu que je leur dise, mais enfin, si on veut que les gens qu'il y ait des groupes par panneau et qu'on puisse leur parler au niveau de chaque panneau, il faut peut-être étaler les panneaux. Malheureusement, 13h30, tous les collectifs étaient là et là, ça a été le début d'une empoignade entre tout le monde qui n'a abouti à rien. Les gens qui étaient là n'ont rien compris, n'entendaient rien. Évidemment, je n'avais pas fourni. On m'a reproché de ne pas avoir fourni de micro. Mais il n'était pas prévu une réunion publique. Il était prévu une réunion informative par groupe. Donc c'était logique. Il y avait des panneaux. Il y avait 4 panneaux, un technicien par panneau. Les gens arrivaient par 2, par 3, par 5 et posaient des questions. Et on n'avait pas besoin de micro. Évidemment, ça a été phagocyté par les collectifs. Et évidemment, M. Martinez, pour ne pas le nommer, de la métropole, s'est retrouvé en réunion publique. On m'a reproché de ne pas avoir mis de chaise, mais il n'était pas prévu que les gens s'asseyent, il était prévu que les gens tournent et passent au niveau des panneaux informatifs. Donc, bon, cette réunion a été une catastrophe. Je l'ai dit haut et fort à la métropole, je l'ai encore redit aux rencontres territoriales de la semaine dernière. Et évidemment, ils s'en sont rendus compte. Et à Prades, à Clapiers, deuxième réunion, ça a été mieux. Alors à Prades, ça a été extraordinaire. Tout le monde était assis, le micro, enfin bon, ça a été vraiment une très belle réunion. Malheureusement, nous en avons fait les frais parce que ben, j'ai forcé pour l'avoir, cette réunion informative. Et c'est à nous qu'on... Mme Rivoissel insiste beaucoup, mais on va commencer par elle. Évidemment, rien n'étant préparé, ça a été raté complètement. J'en suis vraiment désolée pour les Montferriérains parce que je voulais vraiment que ce soit une réunion où ils puissent avoir des réponses à leurs questions. Or, ils n'ont pas de réponses à leurs questions. Ça a été... n'importe quoi.
Ce qui est sûr, c'est que ce que je demande ce soir également, c'est que tout le monde signe et fasse signer la pétition qui est en ligne encore aujourd'hui et portée par le collectif qui atteint presque 1000 signatures. Donc pensez que cette pétition est très importante pour pousser et essayer de faire en sorte que ce projet de réaménagement soit revu et corrigé. Merci.
Moi, je pense que les pétitions, elles sont portées par le collectif et que la mairie n'a pas à signer de pétition de collectif. L'équipe municipale doit se tenir en dehors des pétitions de collectif. Après, que tous les collectifs et qu'il y en ait d'autres qui se créent à ce sujet-là, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Qu'il y ait des pétitions montées par ces collectifs et qu'elles soient signées par les administrés, il n'y a pas de souci pour moi. Mais je trouve qu'en tant qu'élu d'une municipalité, nous n'avons pas à signer les pétitions. Voilà. Après, c'est ma position. Chacun voit midi à sa porte.
J'en ai un autre et je l'ai moi-même signé. Oui.
Et c'est pour ça que je dis chacun fait ce qu'il veut. Après, il n'y a pas de souci.
Je l'ai signé et tous les habitants sont responsables et...
Mais c'est ce que disent les administrés. Il n'y a aucun problème pour moi pour qu'ils puissent signer les pétitions des collectifs. Il n'y a aucun problème. Nous allons passer au vote donc sur cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et donc, je vous remercie pour la motion. Nous allons passer maintenant aux questions diverses. Alors, au niveau du groupe de Michel Brebis.
Oui, avec trois questions qu'on vous a présentées. Hein. La première, c'était. Non, mais je te pose juste la première question. C'était dans l'épanouissement des travaux, des chantiers en cours.
Salle de musique et l'école. Je vais donner la parole à Alain.
L'école, on sait plus ou moins, mais.
Alors, on va commencer par, par la salle de musique. Pour ne rien vous cacher, nous sommes en retard. Bon, c'est triste en fait. Hein. Nous sommes en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des carences, tout le monde le sait, des carences au niveau des matériaux. Et à l'heure actuelle, on subit cette carence ne serait-ce que pour le verre. C'est-à-dire que l'entreprise qui a en charge les menuiseries a mis en place les dormants il y a déjà 3 semaines et on n'a pas de verre. Ce qui fait que on ne pouvons pas nous mettre hors d'eau. L'entreprise qui doit faire les placos a approvisionné ses placos il y a 3 semaines. Les placos sont sous toiture, mais risquent de prendre l'eau s'il y a le moindre problème, hein, ça c'est sûr. Enfin, on y reviendra. Hein. Donc voilà, nous sommes en retard et j'espère, je passe beaucoup de temps avec l'architecte en lui mettant la pression, de manière à ce qu'il mette la pression sur les entreprises. Mais là, c'est une question matérielle qui est difficile, qu'il est difficile de contourner. Donc j'espère. Je ne voudrais pas vous induire encore en erreur et vous dire ce sera fait la semaine prochaine, mais j'espère que d'ici à la fin de l'année, on aura mis les vitrages et à partir de là, l'année prochaine, bon, il faut savoir quand même que les entreprises ne travaillent pratiquement pas entre Noël et le 1er janvier, donc tout ça, ça reporté en début d'année. Bon, soyons optimistes du côté des approvisionnements, j'espère que tout va se régler. Bon, en ce qui concerne l'école, bah, la phase 1 est terminée. Il y a eu 2 entreprises qui avaient des retards. C'est l'entreprise Pistre en menuiserie. Tous les mercredis, nous ouvrons l'école à 7h à cette entreprise pour qu'ils interviennent. Ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on arrive au bout. Et il y avait également l'entreprise Charmillon qui, elle aussi, a été victime de déficit de matériel, surtout de matériel. Là, on avait approvisionné les CTA, et il manquait du matériel qui venait de Chine. Ce matériel est arrivé, on a commencé à l'installation mercredi. Je pense que mercredi prochain, on terminera cette installation et le mercredi suivant, voire à la rentrée, tout sera en place pour aborder une rentrée normale, chauffée avec des brasseurs d'air comme c'était prévu initialement. Au retard aussi dû à l'approvisionnement de matériel. Voilà.
Sachant que la phase 2 donc, débutera cet été, hein, l'été prochain, mais on n'aura plus du tout le chauffage. Le chauffage, ça sera entièrement terminé. Et là, les classes sont chauffées avec les petits convecteurs électriques, sachant que sur ces convecteurs, la température est bloquée à 21 degrés. Hein, c'est ça, 21 degrés, et donc il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà. Et ces convecteurs s'éteignent automatiquement quand il y a une porte ouverte, qui donc refroidit systématiquement la pièce. À ce moment-là, le convecteur s'arrête. Par exemple, c'est surtout valable pour les convecteurs qui sont dans les petits halls d'entrée qui correspondent avec la cour. Là, il y a un convecteur. Ce convecteur est à 21. Si les enfants sortent et laissent la porte ouverte, le convecteur s'arrête. Donc, on ne consomme pas de l'énergie d'une façon excessive. Donc là, vraiment, pour l'instant, les enseignants sont enchantés de la température dans les salles. Et
on n'a pas eu du tout de. Enfin, on a même eu des retours positifs en disant que l'isolation, le simple fait d'avoir isolé, en fait, et les convecteurs, les seuls convecteurs suffisaient pour l'instant à chauffer
Et l'isolation, elles s'en sont d'autant plus rendues compte qu'on a eu du beau temps longtemps, oui. Et donc du soleil. Ce sont des classes qui étaient plutôt exposées au soleil. Et immédiatement, elles ont senti le chauffage. À l'époque, ce n'était pas encore allumé. Elles avaient chaud dans les classes, beaucoup plus chaud que les autres années. Du coup, il y a beaucoup d'enseignantes qui travaillaient la porte ouverte sur la cour. Donc c'est là où on s'est rendu compte que l'isolation était absolument nécessaire. Donc, on a été très satisfaits, en tous les cas, du retour, au moins, de ces travaux-là. On en a été persuadés à ce moment-là. Donc, l'isolation était très importante. Votre deuxième question
Juste sur la phase 2, le planning, il sera respecté?
Oui, nous avons eu une réunion avec l'architecte il y a un mois, hein, de manière à faire le point, à voir... évaluer les entreprises aussi, voir le travail qui avait été réalisé, voir si on continuait avec les mêmes entreprises. Bon, on a les marchés, mais enfin, on peut les énoncer. Donc, il se trouve que tout le monde est d'accord pour reprendre sur les bases du marché initial. Donc, pas de problème pour la phase 2. Ça va... Si, pas de problème. Il y aura sûrement des problèmes parce qu'il y a quand même 5 classes à refaire. Plus la salle polyvalente, donc les délais vont, je pense que ça va être un peu compliqué. Enfin, on verra ça pour les vacances.
J'ai demandé à l'architecte d'essayer de commencer pendant les vacances de février et de Pâques, d'avancer certains travaux, par exemple tout ce qui est rénovation des toilettes, de tout le bloc sanitaire. Ils vont essayer de le faire, c'est même planifié pour les vacances de Pâques. Et c'est pour ça que j'ai pu obtenir 25 000 euros supplémentaires. C'est pour les blocs sanitaires qui n'étaient pas prévus au départ dans le marché et qu'on a introduit en se disant on fait des travaux, donc autant en faire rénover les blocs sanitaires. Donc ils vont commencer pendant les vacances. Ils vont commencer aussi à poser certains faux plafonds dans certaines salles, par exemple la salle polyvalente. Ils vont essayer de placer tous les faux plafonds pour avancer, grignoter du temps. Et on a même commencé à envisager pour les travaux de l'été prochain de faire arrêter l'école avant, alors pas arrêter l'école, mais transporter l'école ici au Dévézou. Donc j'ai demandé à la directrice de se rapprocher de l'inspecteur d'académie pour qu'il nous donne l'autorisation de déplacer la première semaine de juillet. Bon, les enseignants ne font plus rien, c'est du rangement de classe, etc. Donc première semaine de juillet sûre. On l'a déplacé ici. Bon, ici, entre les salles, etc., on peut arriver à faire des petits endroits pour chaque classe, sachant qu'après, il peut y avoir des occupations communes à différents niveaux, par exemple niveau CM, niveau CE, etc. Et si vraiment on sent que c'est juste, à ce moment-là, on demandera une semaine supplémentaire et la dernière semaine de juin, ils viendraient ici aussi. Donc, comme ça, ça nous permettrait de gagner 15 jours sur l'été, parce que moi, je suis obnubilée par la rentrée au 1er septembre. Il faut absolument... Alors, je préfère qu'en fin d'année, ils viennent au Dévézou, c'est moins perturbant que de le 1er septembre, de venir au Dévézou pour commencer l'école. Et les enseignants ont tout de suite validé, la directrice a tout de suite validé. Maintenant, il nous reste à avoir l'acceptation du...
L'inspecteur,
et je pense que bon, il n'y verra pas d'inconvénient dans ce sens. On la demanderait peut-être pour la rentrée, ça serait plus compliqué. Mais là, c'est la fin de l'année, donc je pense que... Voilà. Et on a la chance d'avoir cette grande salle. Tant pis, hein, on bloquera des associations, mais on l'utilisera pour l'école, priorité à l'école, et puis terminé. Voilà comment on envisage de grignoter du temps sur les vacances. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas une semaine Covid pendant les vacances, comme on a eu sur l'allée des platanes, où la régie des eaux a eu une semaine Ah oui, on l'a payé très très cher, ça nous a valu X semaines, et vous savez que ça vient juste d'être terminé. Voilà. Deuxième question.
Deuxième question, on avait commencé il y a quelque temps une réflexion au sujet des cheminements doux, des pistes cyclables, des sens de circulation dans la commune, et ça s'est arrêté. Alors je sais qu'il y a le rond-point de Chirac et la piste cyclable de l'emportement, mais ça n'empêche pas de continuer une réflexion quand même qui quelque part est indépendante quand même.
Oui, tu as raison, et la réflexion ne s'est pas arrêtée, même si effectivement on est bien occupé par ces deux projets. Pas plus tard que les semaines qui viennent de passer, on a eu des réunions avec la métropole sur le chemin de la qualité. Et donc pour la piste cyclable, chemin de la qualité. Donc ça avance parce qu'on aimerait bien que cette piste puisse sortir avant l'échéance du tram, en fait. On aimerait bien que les travaux puissent se faire avant 2025. Donc cette piste cyclable avec l'arrivée des enfants en toute sécurité vers les écoles, ça nous tient à cœur, c'est un bon projet. Et donc là, les études sont en train d'être faites. Après, pour ce qui est des chemins, donc ça ferait l'intégralité du maillage cyclable qu'on avait imaginé et qu'on avait discuté avec vous, est en train de s'entrevoir, en fait, entre la route de Mende, la fin de l'Allier Ronde, Cardenis qualité, plus un petit bout à discuter en mode mixte, Bugadière, Mas 2000, pour arriver à faire une jonction entre les deux pistes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va à mon avis, assez raisonnablement voir le jour avant la fin du mandat. Pour les cheminements piétons, ça sera des voies vertes, hein, toutes ces voies cyclables, donc c'est mixité piéton-vélo, voilà. Et puis après, pour vraiment les cheminements doux, en plus de ça, donc ça, c'est un peu au point mort, hein, parce qu'on avait, le projet qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de relier Aiguillères, Grèze, école de façon sécurisée. Ça, on avait déjà parlé. Et bon, pour l'instant, tant qu'on ne peut pas sécuriser l'allée des Platanes, enfin la dernière partie de l'allée des Platanes, c'est compliqué. Hein. Et donc là, on reste encore en attente et en échange avec la métropole à ce sujet. Voilà. Et en fait, le facteur bloquant, c'est le bus, la taille du bus. Hein, tant qu'on a des gros bus, on ne peut rien faire dans cette allée des Platanes. Et donc là aussi, c'est une demande qu'on est en train de faire, hein, auprès de la TAM pour voir si l'offre de bus qui va être réinterrogée avec l'arrivée du tram, si l'offre de bus peut évoluer pour qu'on puisse faire quelque chose de plus sécurisé, hein, entre Aiguillères, Platanes, Chemin Neuf, Place des Grèzes. Hein, parce que là, il y a quand même un point de blocage et un point qui n'est pas satisfaisant, hein, clairement. Hein. Donc, mais pour l'instant, c'est à l'état de... C'est une volonté qu'on a, mais on est bloqué par le côté technique. Voilà.
Quand tu parles de l'offre de bus, tu parles de la taille?
Oui. Ben, en fait, l'offre de bus va être interrogée sur la taille, sur la fréquence, sur... ils remettent... alors, je ne dis pas qu'ils vont tout remettre à plat, hein, mais il y a évidemment une discussion là-dessus. Voilà.
Ben, c'est bien, effectivement, qu'on ait...
Attends, ne bouge pas, Jean-Marc.
Voilà, oui, c'est bien qu'on ait cette information au conseil municipal, mais je pense que c'est dommage quand même qu'on n'ait pas eu des réunions de la commission mobilité sur ces sujets, soit juste avant la réunion avec la métropole, soit après, parce que je pense que techniquement, il y a toute une série de choses qu'il faut regarder à partir de plans, de choses comme ça, etc. Et donc, nous sommes demandeurs que la commission mobilité puisse se réunir, alors qu'effectivement, il y a des enjeux, hein, il reste 3 ans de mandat pour faire aboutir ces projets, c'est une négociation avec la métropole, c'est lourd, c'est compliqué. Il y a des engagements, tout ça c'est des espèces de poupées russes, hein, on est d'accord. On avait déjà pas mal travaillé jusqu'au mois d'avril sur un certain nombre de scénarios. Je ne sais pas ce que vous avez discuté concrètement, enfin point par point avec la métropole sur ces différents scénarios, mais nous sommes demandeurs à ce que la commission mobilité puisse se réunir de nouveau, à partir comme on l'avait fait la première fois, avec des plans, avec des discussions, et des solutions techniques, celles qui sont proposées par la métropole, les aménagements qu'on pourrait éventuellement proposer de notre côté, etc.
Écoute, on va le faire. Hein. La précédente réunion de la commission mobilité avait été très intéressante. Il y avait eu des conséquences à cette réunion qui avaient été un peu fâcheuses. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne s'était pas réunis après, hein, pour qu'on soit clair. Hein. Donc, et puis le contexte un peu conflictuel de Girac n'a pas aidé. Mais effectivement, je suis d'accord. Hein, donc, et sachant que les échanges qu'on avait eus ont servi, hein, ont nourri notre réflexion, évidemment, pour les échanges qu'on a eus avec la métropole. Donc on continuera à faire ça. Voilà, je ne peux pas te garantir une date, mais à n'en point douter en 2023.
C'est un gros engagement.
Voilà.
C'est un gros engagement qui est pris.
Au début de l'année, si c'est possible.
Vous avez une troisième question?
Dans le dernier, c'était pour Bernard, un point technique sur l'emprunt qu'on a contracté.
Alors l'emprunt. Donc vous vous souvenez qu'on avait prévu au budget primitif un emprunt d'1 million d'euros. Compte tenu effectivement du relèvement des taux des prêts et comme on avait prévu de faire un deuxième emprunt de 500 000 euros en 2023, et on avait pris une délibération modificative pour passer le prêt de 1 million à 1,5 million. Donc ça a été fait. On a obtenu donc ce prêt auprès du Crédit Mutuel de Montpellier sur une durée de 25 ans. Le taux est de 1,30%. On avait l'obligation de débloquer le prêt au plus tard le 15 décembre. Donc ça va être fait. Donc il va être débloqué. Tout est en place. On aura une première échéance d'emprunt qui tombe le 31 décembre. Alors effectivement, bon, moi quand j'ai fait ma DM, je n'ai pas réfléchi très bien que de toute façon on ne paierait que les intérêts sur la période courue. Donc ça fera un petit peu moins que ce que j'ai prévu. Tant mieux. Voilà. Donc on aura ce 1,5 million qui va nous permettre de procéder à tous les investissements que vous voulez faire. Et donc ça nous donnera une facilité. Et puis surtout, on préserve l'augmentation des taux qui se sont passés depuis et qui vont continuer. Voilà. Sinon, bon, ben, vous savez qu'il nous reste deux petits emprunts. Aujourd'hui, le capital dû, qui reste gratuit à la fin d'année, c'est 30 000 euros sur ces deux emprunts. Donc il reste pratiquement plus rien.
Merci.
Pas de questions ? Ça va ?
Très bien.
Monsieur Bambre, vous avez des questions ?
Oui.
Ça m'a surprise.
Alors,
il est surpris comme beaucoup d'entre vous, mais il n'est pas encore trop tard. Alors, première question sur vidéosurveillance, puisque vous avez appris à faire sur votre WhatsApp que de nouvelles dégradations ont eu lieu sur le parking du Belvédère, avec notamment un vol de peau catalytique, ce qui s'est généralisé d'ailleurs sur la métropole, j'ai appris par la suite. Alors, cela fait 2 ans que l'on parle de la sécurisation de Montpellier. Qu'en est-il donc de la question de la vidéosurveillance dans la commune? Qu'en est-il de votre programme de renforcement de vidéosurveillance à Montpellier? Est-ce que c'est au point? Qu'est-ce qui est installé? Voilà, quelles sont les procédures d'attribution des marchés publics en matière de vidéosurveillance? Ça fait plein de questions. Bien sûr, autour de cette question de vidéosurveillance, quels sont les devis aussi acceptés liés à cette installation? Je rappelle que les devis sont des pièces publiques. Et donc, il serait bien que vous nous montriez également le dossier, le plan pluriannuel d'intervention pour ce dossier, dont l'investissement s'étalera, je pense, sur plusieurs années. Merci.
Alors, je réponds tout de suite. Je vous rappelle qu'on a eu 2 années de Covid, que ça fait exactement 2 ans et demi que nous sommes aux responsabilités. Sur ces 2 ans et demi, nous avons eu 2 années de Covid, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, en l'espace de 8 mois, M. Guédan, responsable de la sécurité, a travaillé donc sur les caméras de vidéosurveillance avec de multiples devis. Et aujourd'hui, l'état d'avancement est très avancé. Donc, je vais laisser la parole à M. Guédan pour vous expliquer que beaucoup de caméras sont déjà mises en place dans la commune.
Merci, Madame le maire. Donc, effectivement, le contexte sanitaire n'a pas aidé, mais... Donc, comme on s'y est engagé, c'était un projet important parce que les habitants souhaitent que la sécurité soit notre priorité, que la sécurité soit notre priorité. Donc le réseau de vidéosurveillance était vieillissant, voire non fonctionnel. On a complètement renouvelé ce réseau. Il y avait 2 contraintes. Je contextualise très rapidement parce que la première contrainte, c'était qu'on souhaitait fibrer l'intégralité des caméras pour que la transmission soit sécurisée et de bien meilleure qualité. Et déployer la fibre, qui n'est pas une fibre domestique, c'est une fibre noire métropolitaine, ça prend du temps, et ça coûte aussi un certain nombre d'argent. Et la deuxième contrainte, ça a été on a souhaité, et d'ailleurs on a été visionnaire là-dessus, de ne pas avoir de batterie sur la totalité de notre réseau. Donc c'est un peu technique, mais les caméras sont sur des candélabres et les candélabres ont une alimentation électrique qui n'est pas continue, puisque ça, par définition, ça s'allume que la nuit. Et en fait, à l'époque, on a souhaité assez tôt de dire c'est pas la peine d'avoir des batteries, on va le mettre sur des courants continus. Donc ça, c'est permanent. Ça, c'était compliqué parce qu'il fallait créer des points de livraison, etc. Et la société qui est en charge de ça a dit qu'on a été visionnaire parce qu'aujourd'hui, l'éclairage public est arrêté la nuit. Et du coup, les caméras ne peuvent plus, les batteries ne peuvent plus être rechargées. Voilà. Et donc ça, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, si on se promène un peu dans Montferrier, en fait, on se rend compte qu'il y a des caméras qui sont installées un peu de partout, même aux égayères. Donc, donc effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont maintenant sécurisés. Alors, je ne peux pas vous donner la liste parce que, en fait, comme c'est public, là, le conseil municipal, s'il donne la liste exacte des emplacements, ben, c'est compliqué parce que les futures personnes qui veulent commettre des larcins, ils auront exactement l'emplacement où ils peuvent être pris. Mais en gros, sachez que ça, aujourd'hui, la ville, le village est bien sécurisé. Il reste à développer et à déployer les caméras de lecture de plaques automatiques à deux endroits stratégiques, mais ça va être fait au début de l'année 2023. Voilà. Donc, notre plan principal va être mis en place pour 2023. Il restera à finaliser les accès au sud du village, puisqu'il y a le tramway qui arrive, donc ce n'est pas la peine de mettre en place des choses tant que les travaux, vous avez vu que ça change en permanence, là, les deux entrées au sud du village, donc tant que ces travaux ne sont pas finis, on ne met pas de caméra là-bas. Et juste, je rappelle aussi un point, parce que ça, c'est des fois les habitants nous disent, hein, mais notre stratégie n'a pas été de sécuriser des quartiers en particulier, ça a été de sécuriser l'espace public, hein, donc les places, les parkings, les écoles, l'espace culturel du Bévézou, les tennis, etc. Parce que si on rentre dans la logique de sécuriser les quartiers, on s'en sort pas. Hein. Ça veut dire que là, c'est à l'infini. Et donc, il faut des moyens supplémentaires, mais des moyens humains aussi, hein, puisqu'il faut que les gens regardent les caméras. Ouais. C'est bon ?
Deuxième question. Bien, deuxième question concerne le terrain de padel. Puisque le terrain qui est inauguré au mois de juin 2022, donc on aimerait avoir un peu un état de voilà, ce terrain de padel, comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a eu des problèmes pour le logiciel de réservation au départ, est-ce que c'est réglé, voilà, et combien d'investissements a-t-il amorti, etc. Tout un tas de questions, un peu de. Vous pouvez nous dire sur ce fameux terrain de paddle que je vois éclairé de temps en temps. Voilà. Merci.
Donc, des investissements amortis en 6 mois, je ne connais pas. Sinon, je ferai des placements. Terrain de paddle, ça fonctionne plutôt bien.
Attends.
Tu parles de l'application, s'il te plaît. De l'application
T9. Oui, je vais aller dessus.
T9.
Voilà.
T9.
Donc l'application T9, je viens de vérifier justement à l'instant, ça fonctionne. Bizarrement, je pense avoir une idée de cela. Il y a moins de réservations depuis qu'on est sur T9 que quand on n'y était pas. Mais je pense que c'est l'effet Coupe du Monde. Il y a beaucoup de gens qui effectivement regardent les matchs et donc du coup sont plus pris, bon, moins souvent sur les terrains de paddle. Donc effectivement, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que l'application fonctionne. Et depuis que l'application fonctionne, il y a moins de rentrées d'argent au club de tennis. Après, on a fait une réunion effectivement avec la présidente et Serge Blanc qui donne un gros coup de main au tennis. Ils nous ont rendu quelques comptes, en gros, pour être très transparent. Par mois, c'est quelque chose qui rapporte au club entre 1500 et 1800 euros. Après, c'est variable. En ce moment, effectivement, il y a très peu de réservations. J'ai regardé sur la semaine, je crois qu'il y a 4 réservations. Alors que sur les semaines précédentes avant le mondial, on était entre 18 et 20. Voilà, l'application fonctionne. Les gens donc, vont sur l'application T9, vous pouvez essayer. Il faut se connecter. Ensuite, on vous demande un numéro de carte bleue. Ça coûte 28 euros. Pour les gens qui sont de Montferrier, il y a un tarif à 5 euros par personne, donc 20 euros. Et c'est 7 euros pour les extérieurs.
Plus les raquettes
et les balles si les gens ne sont pas équipés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Après, sur l'investissement, le coût du paddle, donc le paddle a coûté 115 000 euros TTC. dans le paddle est compris la construction du cours, plus la mise en place du portail et de l'application, et le changement de l'éclairage. Donc nous avons eu un global de 115 000 euros sur lequel nous avons eu 80 000 euros de subvention. Voilà. Donc moi j'ai demandé donc au club, sur 6 mois, on a eu à peu près 5 500 euros de location. En 6 mois, sachant que cette dernière période est une période plutôt pauvre en location. Donc, bon, après, le paddle, c'est quand même essentiellement un sport d'extérieur. Donc, là, on est dans une période où il fait mauvais, où il va faire froid. Donc, les gens, peut-être, iront moins facilement au paddle. Mais, en tous les cas, on a mis en place le paddle au mois de mai, début mai. Et jusqu'à début octobre, nous avons eu 5500 euros de rentrée. Donc, c'est pas mal. Si on arrive à 10 000 euros sur l'année, ben, c'est bien. 8 000 euros sur l'année. C'est un démarrage, il faut que les gens bon, prennent l'habitude et de l'application et de jouer au padel, etc., etc. Donc je pense que ça va aller crescendo, enfin je l'espère en tous les cas pour le padel que nous avons décidé de mettre en place.
Merci. Pierre.
Bon, une dernière question pour Monsieur Depont, je pense. Pouvez-vous nous dire où en est le dossier de la TNCG pour l'heure de l'aviron ? Merci.
Alors, en préalable, je voudrais préciser que j'ai informé très régulièrement la commission d'urbanisme, donc fait partie, M. Bord, des avancées éventuelles de dossiers. Donc je pense que ce soir, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, désolé. Pour les autres, le point ce jour, même s'il y a eu un accord tacite, Free nous a assigné devant le tribunal administratif pour annuler la décision que nous avions prise le 25 juillet, par laquelle nous nous opposions à ce projet. C'était très rapide. Suite à cela, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier nous a enjoint le 23 novembre dernier à prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de Free. Ça vous montre qu'en termes d'installation de relais téléphoniques, le pouvoir des maires est quasi inutile. Ça a été très vite.